Dans son discours à la 72e Assemblée générale des Nations Unies, le président Joseph Kabila a affirmé que l'étape vers les élections crédibles, transparentes et apaisées est définitivement irréversible. Les tout sans ingérence extérieure ni dictat quelconque a-t-il déclaré. En marge de cette session, le Rassemblement ainsi que certaines ONG nationales et internationales ont plaidé pour une transition sans Kabila si les élections ne sont pas organisées au 31 décembre 2017. Quelle est-il faire de cette situation? C'est la question de l'émission et nous en parlons avec André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur André Alain Atundu.
Bonsoir.
Professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Il est aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Bonsoir, professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir.
Et lui va nous rejoindre, c'est Délice Sanga, il est député national de l'opposition, il est aussi président du parti politique Envol et président de la plateforme Alternance pour la République et membre du Rassemblement. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
Le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est exprimé samedi dernier à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 72e Assemblée Générale. Il a essentiellement axé son allocution sur les avancées réalisées dans le processus électoral en cours en RDC, avec l'enrôlement de près de 42 millions d'électeurs. Pour le président de la RDC, le cap vers les élections est fixé et la marche vers cette direction est irréversible. Écoutons cet extrait de son discours recueilli par Askenzi Gyatayoro sur la télévision en ligne des Nations Unies.
La série d'évaluation du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la commission électorale, devrait permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. En dépit de ces avancées, le défi en vue de l'organisation des élections demeure tant au plan logistique, financier, sécuritaire et normatif. Nous y faisons donc face avec humilité, mais aussi avec une indéniable ténacité. Vu toutes ces avancées, j'affirme que le cap vers les élections est définitivement fixé et que notre marche dans cette direction est irréversible. Le tout sans ingérence extérieure ni dictat quelconque. Aux vrais amis de mon pays, je demande de soutenir sincèrement le processus électoral en cours.
André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle, le chef de l'État s'est exprimé à la tribune de l'ONU. Et quel est le sens que vous donnez à ces discours?
Bon, c'est un discours des circonstances qui, à l'occasion de cette assemblée, donne les orientations et les avancées des problèmes qui nous concernent, essentiellement le processus électoral, la question de la cohésion à travers le drame du Kasaï qui a trouvé une solution. Et enfin, la volonté du président de la République a été exprimée de mener à bonne fin et au bout le processus électoral. Ensuite, le président a marqué la préservation, le souci de préserver la souveraineté nationale dans le choix de partenaires et les conditions, notamment à travers la réflexion qu'il a livrée sur la MONUSCO. Donc, d'une façon générale, c'est un discours sobre, mais très pertinent. Vraiment, c'est très pertinent et il a exprimé avec une maîtrise parfaite de la situation sécuritaire du pays et des problèmes de façon générale.
Discours de circonstance, discours pertinent. Et comment vous répondez à ceux qui disent que le chef de l'État a parlé de tout sauf de lui, c'est-à-dire il n'a pas parlé de son avenir politique?
Est-ce la circonstance? Je dois rappeler les propos, je dirais, Le serment que le Premier ministre Lumumba nous a laissé, n'est-ce pas, l'obligation qu'il nous a laissé. L'histoire de notre pays doit s'inscrire chez nous. Le sort du président de la République ne se décide pas à New York. Le sort du président de la République se décide au Congo, à l'Assemblée nationale. Et donc, ce sont, moi je qualifie ces gens-là des négationnistes, qui ne veulent pas voir les progrès réalisés, reconnaître au président Kabila les efforts réels qu'il a faits pour que nous soyons aujourd'hui à avoir 42 millions d'enrôlés sur les 45 attendus, d'avoir une perspective porteuse de l'organisation des élections. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'obstacle majeur et le gouvernement a fait montre d'une volonté politique indéniable en apportant tout seul le poids de l'enrôlement.
Monsieur l'ambassadeur, en dépit du fait que le chef de l'État a rappelé que l'objectif ultime de l'accord de la Saint-Sylvestre est l'organisation des élections, le rassemblement ainsi que certaines organisations de la société civile l'accusent de violer cet accord et de ne pas avoir l'intention, n'est-ce pas, d'organiser les élections conformément au délai contenu dans cet accord, c'est-à-dire décembre 2017.
Les faits contredisent de telles allégations.
Quels sont ces faits?
Les faits, c'est que je prends un fait fondamental, c'est l'accord. L'accord, dans sa disposition, je crois 4-3, en tout cas dans une de ses dispositions pertinentes, a fait obligation au gouvernement, au CINSA et à la CENI d'évaluer régulièrement la marche vers la marche du processus électoral. Et l'accord de préciser que ces trois institutions peuvent, à l'unanimité, de façon consensuelle, décider du délai supplémentaire à accorder pour mener à bonne fin ce processus par des élections qui doivent déboucher sur une alternance démocratique.
Donc ils n'ont pas raison lorsqu'ils disent que le chef d'État viole cet accord de la Saint-Sylvestre.
Comme toujours, le procès d'intention.
Et cette sorte de procès d'intention, n'est-ce pas, pousse l'opposition à plaider pour une transition de 6 mois sans Joseph Kabila. Comment vous réagissez à cette démarche de l'opposition?
L'avantage de ce procès d'intention est de nous révéler leur intention réelle. Leur intention réelle, dès le départ d'ailleurs, c'est de créer dans notre République un gouvernement d'exception, un état d'exception, pour placer à la tête de l'État l'un de leurs, avec la complicité de leurs partenaires extérieurs. Ça, c'est tout à fait assez regrettable, mais les faits sont les faits. Voilà. Malgré toutes les péripéties, malgré tous les leurs, eh bien, la vérité apparaît. Ils n'ont pas besoin d'élections, ils n'ont pas besoin d'une alternance démocratique, ils ont besoin d'une alternance par coup d'État, par putsch.
Le processus électoral est irréversible, tout se passera sans ingérence extérieure ni dictat quelconque. Aux vrais amis de la RDC, je demande de soutenir sincèrement ces processus. Monsieur l'ambassadeur, on refuse l'ingérence de l'extérieur, mais on demande le soutien. Comment vous expliquez cela?
Mais c'est ça la vie internationale. Les États-Unis, l'une des plus grandes puissances du monde, refusent l'ingérence dans leur pays, mais ils demandent le soutien de tout le monde, même contre la Corée du Nord, contre tout. C'est ça les relations internationales. Les relations internationales entre États membres sont basées sur la charte qui comprend deux piliers, c'est le respect de la souveraineté, le respect de la souveraineté inaliénable des États et la solidarité caractéristique aux membres d'une même communauté. Et voilà ces deux principes. Si on les respecte comme il faut, ben, il n'y aura pas d'handicap majeur dans les relations entre États membres des Nations Unies.
Et qu'est-ce que vous appelez ingérence extérieure? C'est lorsqu'on vous rappelle que vous devez respecter les engagements pris?
Non, lorsque vous voulez faire ce que nous devons faire à notre place.
Merci, Delice Sanga. Bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique En Vol. Vous êtes aussi président de la plateforme Alternance pour la République et membre du Rassemblement. Après avoir suivi les discours du chef de l'État, Joseph Kabila, à la tribune des Nations Unies, vous avez éprouvé quel sentiment? La déception ou la satisfaction?
C'est un sentiment de profonde déception. Parce que, une fois de plus, comme il nous a habitués, le chef de l'État a raté l'occasion où il aurait pu marquer un certain nombre de points. Mais nous savions que par son discours, il a au moins signalé trois choses. La première, c'est l'immense gâchis qu'a représenté son gouvernement pour le pays et pour le peuple congolais, parce qu'il a été incapable, au bout de 10 ans, de pouvoir animer des politiques publiques et une vision capable d'assurer la stabilité des institutions et de protéger les projets démocratiques pour lesquels le peuple congolais s'était longtemps sacrifié dans ce pays. Premier échec. Le deuxième échec, ça a été l'incapacité de Joseph Kabila et de toutes ses majorités, ses différents gouvernements au bout de 10 ans, de pouvoir donner à ce pays un outil de défense et une doctrine en matière de sécurité capable de préserver et de garantir l'indépendance nationale. Le Congo est aujourd'hui un pays qui est en insécurité totale. Donc, la chanson qui est chantée chaque jour, comme quoi le Congo va mieux, ma foi, ne convainc que eux-mêmes, à qui l'action a été enlevée, parce qu'ils ne font aucune action, à qui il a été enlevé un certain nombre de convictions, des valeurs communes qui ont consolidé le pacte républicain depuis Sun City et qui ont donné foi au peuple congolais de rebâtir une société nouvelle.
Et, le troisième échec.
Et à qui il n'est resté que la parole dans une sorte d'exercice que seuls les psychanalystes peuvent analyser pour savoir qu'est-ce que la parole veut bien pouvoir cacher parce qu'il ne dit rien.
Et le troisième échec.
Le troisième échec, ça a été effectivement la situation économique et sociale du pays. Vous savez, lorsque les historiens, en des temps tout à fait neutres, feront le bilan de Joseph Kabila, on remarquera finalement que le temps de gloire a été le temps où il y a eu les 1 plus 4 dans ce pays, où il y a eu un semblant d'État, où on a été capable de mettre en place un certain minimum de fonctionnement de ce pays pour générer dans la durée une prospérité des masses. 10 ans gâchés de croissance économique et qui ont été captés par la corruption d'un clan, d'une famille, d'un groupe au détriment de l'intérêt supérieur de la nation et de la masse congolaise. Et donc, ce gouvernement était incapable de sécréter une prospérité des masses. Et donc, dans cette crise profonde, voilà un homme avec un clan au pouvoir qui a un discours qui est tourné sur lui-même dans un vide tout à fait sidéral aux Nations Unies. Il a répété la même chose, oubliant même ce qui a été dit l'année dernière. Parce que bon, nous l'avons suivi devant cette même tribune. Promettre les élections pour 2016, que vaut aujourd'hui la parole de ceux qui disent qu'il y a des avancées? Qui voit ces avancées? Qui découvre dans ces défaillances successives, organisées, orchestrées, un minimum de bonne foi? Il n'y en a pas. Et donc aujourd'hui, comme c'était le cas dans cette salle des Nations Unies, où le président finalement s'est mis à parler devant ses propres collaborateurs, je crois qu'il n'y a pas grand monde, ni dans la communauté internationale, ni dans la société congolaise, qui croit encore les discours du président Joseph Kabila et de son clan, et sa capacité à organiser les élections qui, quoi qu'ils le disent, vont consacrer le départ de Joseph Kabila du pouvoir, parce qu'il est un consensus dans ce pays que nul ne peut assurer plus de deux mandats comme président de la République. Donc voilà, ceux qui ont échoué sur la capacité à garantir la continuité du cycle électoral, aujourd'hui ne peuvent pas devenir les meilleurs éléments pour pouvoir restaurer la légalité républicaine et la continuité de ce cycle.
Honorable Delice Sanga, le Rassemblement ainsi que certaines organisations de la société civile plaident pour une transition sans Kabila. Cela veut dire quoi? Que le Rassemblement n'est plus dans la logique de l'accord de la Saint-Sylvestre?
Bon, nous sommes toujours dans l'accord. Que dit l'accord?
Cet accord, on n'a jamais parlé d'une transition sans Kabila.
Que dit l'accord? L'accord n'a pas dit qu'on va prolonger indéfiniment le mandat de Joseph Kabila, parce que, au prix des arguties qui seront avancées par son camp au fur et à mesure, on va dire on ne peut pas organiser les élections jusqu'en 2022, jusqu'en 2025. Ils sont en train de faire du mouboutisme et André Alain, c'est ce qui s'est passé dans ce pays dans les années 90, pour que je puisse y revenir, ils sont en train de faire du mouboutisme sans Mobutu et sans les moyens que Mobutu avait à l'époque pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, nous avons un accord qui a prévu que les élections se tenaient au 31 décembre plus tard, et ce qui a été convenu dans l'accord, ce n'est pas ce que dit André Alain, ce qui a été convenu dans l'accord, c'est de voir, lorsque nous allons vers la tenue des élections, quelles étaient les mesures qu'il fallait prendre, surtout nous départager sur la séquence électorale. C'est ainsi que nous disons ceci. Si d'ici au 31 décembre, il n'y a aucun acte et on n'est pas prêt à écouter aucune parole, parce que tout ça c'est des balivernes, s'il n'y a aucun acte qui est posé, qui va dans le sens à dire on a convoqué le corps électoral, alors la solution va transiter par la recherche des mécanismes nouveaux pour mettre en place un système qui va faire cette transition sans Joseph Kabila.
Vous y avez pensé? Vous avez pensé à ces mécanismes, à ces nouveaux mécanismes
écoutez,
par lesquels on va mettre en place une transition sans Kabila?
Alors, ce serait quand même une insulte au peuple congolais de penser que le génie du peuple congolais est absorbé et limité par la présence de Joseph Kabila à la tête du pays. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans ce pays autre combinaison politique possible pour pouvoir trouver une issue à la crise à laquelle nous sommes confrontés. Il faut quand même que les gens ramènent les choses dans leur juste proportion. Nous sommes tous des mortels, nous allons tous passer, le Congo va nous survivre. Et donc, si on a ça à l'esprit, on doit se dire que quelqu'un qui a épuisé ce deux mandats à la tête de l'État ne peut pas, au motif de n'avoir pas organisé pendant 10 ans les élections locales, d'avoir failli d'organiser les élections sénatoriales, se maintenir indéfiniment au pouvoir. Ça, c'est inacceptable et c'est ce que le peuple congolais ne veut plus voir.
Merci, professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Vous êtes aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Votre analyse par rapport au discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies?
D'abord, le style. Le style qui a été utilisé est assez aisé. Le discours va du général au local. Local, on fait allusion notamment au Kasaï, en passant par le sous-régional, c'est-à-dire l'Union africaine, et au national, c'est-à-dire la RDC. Et il exploite les thèmes habituels des Nations Unies, que sont développement durable, avec l'accord de Paris, la lutte contre les changements climatiques, et aussi la lutte contre le terrorisme. C'est d'ailleurs au travers du concept de terrorisme qu'il arrive, si vous voulez, à tomber sous la situation sécuritaire, notamment la situation du Kasaï. Alors, il s'est étendu sur la situation du Kasaï, et avec notamment les derniers développements, la conférence qui est donc de pacification sur la paix et la réconciliation. Par contre, il a effleuré la situation sécuritaire à l'est du pays, notamment en faisant une allusion assez rapide à ADF et puis au LRA. Et pourtant, la situation à l'est du pays, elle est restée chaotique, avec la prolifération de milices armées qui continuent à s'affronter dans l'impuissance générale de l'État. Il a également donné une lecture de processus électoral, notamment avec l'enrôlement, la mise en place du CENSA, mais il est resté assez muet sur des questions. Et ces deux questions, vous avez repris l'une d'elles. La première, c'est son propre avenir politique. Et donc, je pensais que la tribune des Nations Unies pouvait être le lieu indiqué pour qu'il puisse finalement se prononcer sur ce qu'il va devenir. Il pouvait peut-être saisir l'occasion, dire, voilà, j'ai fait mon temps, maintenant est arrivé le moment où je veux passer le flambeau à un autre. Mais il n'a pas. Peut-être qu'il a compris qu'il ne pouvait pas le faire devant la tribune des Nations Unies. Il fera certainement en RDC. Eh bien, on attend bien cette occasion. La deuxième, c'est que ce sont les dates des élections. Alors, quand vous regardez le mutisme autour de ces deux questions, nous avons là deux conséquences possibles. La première, c'est le sceptre pratiquement d'une incertitude sur qu'est-ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il va être un acteur du jeu électoral ou le fait qu'il se soit dessus, il nous réserve une surprise agréable. Deuxièmement, c'est qu'en fait, il soumet le fait de ne pas donner des dates, même s'il dit que ce n'est pas à lui de donner, mais c'est à la CENI, mais il faut déjà dire qu'il y a deux ans, dans un discours qu'il avait prononcé aux Nations Unies, il avait dit qu'il y aura certainement des élections avant la fin 2016. Et donc, aujourd'hui, il ne s'avance pas sur une date, encore moins sur une période, ce qui soumet les élections, évidemment, à une horlogerie électorale élastique et pratiquement incertaine. Et donc, ces deux conséquences risquent d'être mal perçues, aussi bien par la communauté internationale que par la communauté internationale. Alors, il en profite pour faire passer deux messages importants. Le premier message, c'est vis-à-vis de la communauté internationale, bien entendu, c'est le redimensionnement de la MONUSCO. Et pour lui, il dit que la MONUSCO devait être jugée, si vous voulez, en fonction de son efficacité effective sur terrain et de l'apport de troupes onusiennes, si vous voulez, à la construction de la paix. Mais en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en fait, qu'est-ce que la RDC a fait pour faire disparaître la raison d'être de la MONUSCO en RDC? Est-ce que la raison d'être de la MONUSCO en RDC a disparu pour demander le redimensionnement ou encore le départ de la MONUSCO? Et c'est peut-être là qu'au niveau de l'opinion nationale congolaise, il est le plus attendu. Alors, un autre message, c'est au niveau du respect de la souveraineté nationale congolaise. Ça, il est revenu et je crois qu'il a tapé fort là-dessus. Et il s'est attaqué évidemment à l'ingérence notamment des grandes puissances. Mais en fait, aujourd'hui, il se construit au niveau des relations internationales le concept de ingérence démocratique. Et ce concept fait allusion, si vous voulez, à cette forme de normalisation de l'État en Afrique. D'ailleurs, j'emprunte le concept de Joseph Kitchener, hein, qui se comprend comme en fait une construction d'un référentiel international dans la gestion de la démocratie, donc démocratique des États en Afrique. Et donc, il est conçu ici que les différents problèmes que les États africains connaissent, qui débouchent évidemment sur des migrations en Europe et autres, sont dus, entre autres, à la mauvaise gouvernance. Et entre autres, la mauvaise gouvernance démocratique. Et donc, ce nouveau concept s'est construit sur un socle. C'est qu'en fait, il faut qu'il y ait une intervention de nations civilisées, directement ou indirectement, dans les pays qui ont des problèmes démocratiques, pour imposer un régime démocratique à une entité, entre parenthèses, souveraine. Et cette imposition, c'est par des pressions diverses.
Et professeur, que répondez-vous à ceux qui parlent d'un discours pour la consommation extérieure?
Bien, alors, je ne crois pas que ça soit seulement pour la consommation extérieure, parce que là-dessus, il est aussi revenu longtemps sur certaines affirmations, sur la situation interne notamment, évidemment. Il a aussi reconnu que tout n'est pas rose, hein, mais je crois que ce discours, il faudra mieux le comprendre, il faudra mieux l'analyser, il faudra mieux le relire. C'est un discours qui n'est pas marqué par de grandes annonces. Non, Il n'y a pas eu de grandes annonces. Il est revenu sur, évidemment, ses thèmes habituels et sa rhétorique habituelle qui consiste généralement à donner toutes les difficultés que le pays a à organiser les élections et donc il est donc difficile pour lui de pouvoir avancer une date. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui qui doit fixer la date des élections si, évidemment, on revient à l'esprit de son discours.
Et au vu de cette démarche que mène l'opposition, démarche qui consiste à plaider pour une transition sans Kabila, peut-on dire que l'opposition n'y croit plus à un compromis possible avec le président Kabila?
Alors, c'est difficile pour moi de pouvoir dire que il ne croit pas à un compromis avec Kabila, mais je semble voir que là, il y a véritablement une césure. Il y a une rupture entre l'opposition et la majorité. Et cette rupture fait peur à l'opinion publique nationale et aussi internationale. À partir du moment où il y a une rupture, ça veut dire qu'il n'y a plus une communication possible entre les deux parties, on se demande bien comment le dialogue pourra résoudre le problème.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Lissala.
Cédric Kana, depuis la ville de Lissala, province de la Mongala. Un discours qui pouvait se comprendre si et seulement si le régime en place était sérieux dans ses engagements. Comment peut-on comprendre qu'un régime responsable refuse qu'on lui dise de cesser de tuer sa propre population civile lors des manifestations? Comment peut-on refuser d'appliquer les engagements pris et que lorsqu'on lui demande de les respecter, on crie à l'ingérence? Il serait mieux pour le régime en place de se conformer simplement aux lois de la République et de respecter les libertés fondamentales. Ainsi, personne ne va s'ingérer aux affaires de la RDC. Quant à la transition, ça le président Kabila. Il me semble que cette proposition soit la plus raisonnable et correcte dans la mesure où le blocage des processus serait la personne des chefs de l'État, car c'est Satan non concerné parce qu'il ne pourra pas briguer un troisième mandat.
Monsieur l'ambassadeur Andréa Atondou.
Oui. Ça ne m'étonne pas, ce sont les propos fantasmagoriques d'un adepte de la solution de l'état d'exception. N'est-ce pas? C'est sans rapport avec la réalité. Un régime qui tue son peuple, c'est ce régime-là qui va imposer la paix au Kasaï, qui va organiser le forum. C'est ce régime-là qui envoie ses troupes mourir au Kivu. C'est ce régime-là qui se bat, qui fait tout. Non, ce n'est pas ça. Tenir ses engagements. C'est ce régime-là qui ne tient pas ses engagements en préparant les élections, en donnant les moyens convenus à la CENI pour organiser l'enrôlement. Non, il faut être sérieux lorsqu'on parle de la vie de notre nation. Il faut avoir de la considération pour ceux qui ont donné ou ceux qui donnent leur vie pour que nous puissions parler en toute liberté, pour que nous puissions réunir les conditions d'une élection consensuelle. Alors, je voudrais, le président, le professeur a parlé d'une construction de référentiel international. Mais le concept est alléchant, charmant. Mais qu'est-ce que c'est qu'un référentiel international sans tenir compte des réalités locales de chaque pays? Chaque démocratie est un cas sui generis. Et donc, il faut tenir compte de cela. Sinon, ça devient la loi du plus fort. Et voilà une des raisons pour laquelle on cherche à réformer le système des Nations Unies, le Conseil de sécurité, pour que ce ne soit pas la loi du plus fort, mais que ce soit la volonté authentique de dirigeants de la communauté internationale.
Monsieur l'ambassadeur, le professeur a aussi parlé du mutisme que garde le président Kabila au sujet de son avenir politique et des dates des élections.
Mais les dates des élections, ce n'est pas à lui de les fixer. Nous sommes dans un état de droit. La CENI est l'institution compétente à organiser les consultations populaires. Sous forme d'élections, sous forme de référendums, sous je ne sais quelle forme. C'est la CENI. Et c'est la CENI qui fixe une date opposable à tous. La CENI ne fixe pas cette date de façon arbitraire, due à l'humeur de son président. C'est à partir des contraintes techniques et d'une projection réalisable. Et donc, ce n'est pas au président de la République dans cette... Le président de la République est le garant de la réalisation des élections. il y tient et s'est engagé. On oublie vite qu'il a donné un lot de camions à la CENI pour faciliter ses opérations. On l'oublie vite. Le gouvernement qui a donné plus de 300 millions pour que l'opération d'enrôlement se poursuive sans aide extérieure. Mais ce sont des actes qui parlent d'eux-mêmes. Donc moi, c'est dommage que, de façon générale, l'opposition radicalisée représentée par le RASOP, elle, Félix Tshilombo et le G7, ce sont des négationnistes, des gens qui ne veulent pas voir la réalité des choses et qui mettent en avant-plan leur frustration de n'avoir pas décroché le poste de Premier ministre, n'avoir pas décroché le poste de Sénat. Mais cela n'a rien à voir avec l'aspiration profonde du peuple congolais à aller aux élections. Ce à quoi s'est engagé le président Kabila, c'est à quoi tout le peuple le suit.
Merci, honorable Elie Sanga. Il y a une série de questions, n'est-ce pas, qui vous sont adressées, qui viennent de Kinshasa.
C'est pas Elie Sanga.
Ingénieur Alain Bouy, depuis la ville de Kinshasa. Lors de son intervention devant les Nations Unies, le président Joseph Kabila a promis que les élections auront lieu en République démocratique du Congo. La question reste à savoir si ces élections auront lieu avant 2018 ou bien en 2018. S'il arrive que les élections ne soient pas organisées avant 2018 et que les schémas proposés par les rassemblements ne soient pas adoptés, qu'est-ce qui va se passer au pays? Car d'aucuns ignorent que c'est la tort de la Saint-Sylvestre qui maintient le président Joseph Kabila au pouvoir qu'au 31 décembre 2017. Est-ce de nouveaux troubles qui se profilent? La solution peut venir de l'extérieur. Et si ça vient de l'extérieur, quel sera le mécanisme appliqué pour apaiser les deux camps qui structurent les pays du chaos?
Honorable Elie Sanga, il y a aussi cette question de Joseph Lohoso. C'est dans les soucis de respecter la Constitution que ces organisations demandent une transition sans Kabila. Et cela n'est possible qu'avec la démission de ces derniers. Pourtant, c'est un acte volontaire que le concerné peut ou ne pas accepter de poser. Qu'envisagent les demandeurs de la transition sans Kabila s'ils ne démissionnent pas?
Ben écoutez, je crois que on croit faire la prose autour de ce qu'a dit Joseph Kabila devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais en fait, ce ne sont pas des propos nouveaux. Moi, je vous sors 50 discours de Joseph Kabila où il a raconté la même chose devant l'Assemblée, le Congrès, où il a envoyé des messages, des interviews pour dire qu'il faisait les élections. Il ne les a jamais faites. Pourquoi aujourd'hui on les croirait, on en ferait un événement? Ce n'est pas une annonce nouvelle. Tout ça est en fait...
Et cela explique votre démarche proposer une transition sans
l'usage. C'est l'usage de la parole pour masquer la vraie volonté qui est celle dans ce pays d'imposer un pouvoir par la force, par des gens qui ont perdu toute légitimité et qui veulent s'y maintenir par des subterfuges.
Et ça, pour contourner cela, il faut une transition sans
Kabila. Il faut une transition sans Joseph Kabila, parce que d'abord, pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'est pas concerné par le processus à venir, et c'est qui le conduit probablement à ne pas investir de volonté pour y aller. Je veux rappeler ici qu'en 2006, pour qu'on puisse organiser l'élection, Joseph Kabila a été parmi les premiers à démarrer la campagne électorale alors qu'il y avait une tergiversation dans la classe politique. Il y avait là un acte. Et on avait commencé la campagne et on y est allé. En 2011, alors qu'on a mis en place la CENI au mois de mars avec Ngoï Moulunda, 6 mois auront suffi pour pouvoir aller aux élections. Et ces élections ont été financées globalement par le budget national. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'on puisse atteindre les mêmes prouesses, étant entendu qu'avec la courbe de l'expérience, nous devons avoir appris de nos erreurs et donc nous pourrions aller beaucoup plus vite. Donc, tout ceci n'est que manœuvre. Et d'ailleurs, quand vous écoutez ce que dit André Alea Tundu, et qui est complètement faux, et plus personne au Congo n'écoute ça, quand il dit « le président a donné le lot des camions », non, c'est des camions de l'armée, il n'a pas donné. C'est l'armée, on peut réquisitionner l'armée pour pouvoir appuyer un service public quel qu'il soit. Donc, et ce sont ces valeurs que nous voulons quitter. Quand ils disent, par exemple, et c'est très important, quand ils disent « nous avons financé le recensement », mais c'est eux qui ont refusé qu'il y ait la transparence dans le financement du cycle électoral pour pouvoir les compliquer davantage et le retarder dans les modes d'exécution, et ont refusé que les appuis, la solidarité solidarité dont il parle à juste titre, la communauté internationale, ne soit pas convoquée pour qu'ils puissent faire les manœuvres et faire des passations des marchés de gré à gré comme ils sont en train de le faire.
Est-ce qu'il faut répondre aux préoccupations des auditeurs et, par rapport à votre démarche?
Mais je réponds, je vais y arriver. On nous parle de la paix au Kassai, mais il n'y a pas la paix au Kassai. Elle est où la justice, parce que la responsabilité du gouvernement au Kassai d'avoir instrumentalisé les pouvoirs coutumiers à des fins politiques et partisanes a été la cause de conflit. Là où il n'y a pas la justice et il n'y a pas la vérité, il ne peut y avoir des réconciliations et des paix. Et il n'y a pas la paix au Kassai. C'est une paix des façades, c'est une paix que l'on a voulu imposer pour pouvoir instrumentaliser une fois de plus une situation qui est dramatique au service d'un discours qui devait être prononcé aux Nations Unies. Et enfin, on me dit, bon, les particularités d'une démocratie locale. Mais M. André Atundu a oublié, lorsque Joseph Kabila, après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, a été adoubé successivement en quelques jours, aussi bien à Paris par Jacques Chirac, par Louis Michel, aux États-Unis par George Bush, avant de revenir par ici au Congo, on ne s'est pas posé la question sur la souveraineté nationale. Depuis 1999, il a peut-être oublié, parce que nous nous sommes rencontrés souvent dans les couloirs de ces négociations à Lusaka, Saka et ailleurs, ce pays est accompagné par la communauté internationale pour établir justement un consensus sur les modes de dévolution du pouvoir afin de garantir la paix et la stabilité. Comment est-ce qu'aujourd'hui il s'est soustrait de ses engagements et il découvre tout d'un coup, comme si c'était une notion nouvelle, la souveraineté qui devient le cache-misère d'une dictature. Et c'est pour refuser cela, et c'est pour refuser qu'il continue à mettre en œuvre cette politique de mise à sac de ce que nous avons bâti, que nous disons qu'ils sont devenus nocifs pour la démocratie et qu'il faut, s'ils n'ont pas organisé les élections, ils ont jusqu'au 31 décembre. Nous les mettons en demeure, ils ont jusqu'au 31 décembre, il y a encore 3 mois. Ils peuvent mieux faire de convoquer l'élection pour que le peuple congolais aille voter. Mais si le peuple congolais n'est pas convoqué, alors le peuple congolais dans son ensemble sera mobilisé pour pouvoir organiser ce pays sans Joseph Kabila, la tête du pays.
Professeur Félicien Kabamba, il y a une question pour vous qui vient de Bukavu, Sud Kivu.
Kikiri Jomba de Bukavu au Sud Kivu, en annonçant les élections dans le vide, c'est-à-dire sans donner de date, ni promettre quoi que ce soit, Joseph Kabila est resté égal à lui-même, un homme qui entretient le flou autour des élections. On aurait bien voulu l'entendre parler de son avenir politique et de nous montrer ce qu'on fait pour croire à sa sincérité. Je ne serais pas surpris de l'entendre demain ou après demain dire qu'il n'a rien promis du tout. Par ailleurs, j'estime de mon point de vue qu'il y a une complicité entre la communauté internationale et le pouvoir de Kinshasa. La dite communauté se limite à la publication du calendrier sans tenir compte de l'accord de la Saint-Sylvestre qui parle de l'organisation des élections en décembre de cette année. Il appartient donc au peuple congolais de se prendre en charge car le salut ne viendra pas de cette communauté internationale, encore moins de ce régime.
Professeur Félicien Kabamba.
En fait, il revient sur les deux questions que j'avais déjà soulevées, notamment la question sur les dates, ou sinon la période des élections, sachant bien que le chef de l'État lui-même, même si ce n'est pas à lui de fixer la date des élections, il avait quand même promis devant les Nations Unies que les élections auront lieu avant décembre 2016. Et donc, le discours qu'il vient de prononcer, c'est un discours qui, de mon point de vue, ne rapproche pas Kinshasa des acteurs de l'ingérence démocratique. Par contre, c'est un discours qui va participer à distancer les deux types d'acteurs. Parce que je doute fort qu'il ait rencontré les attentes des acteurs de l'ingérence démocratique. Et c'est peut-être là que nous allons assister, probablement dans le prochain jour, une nouvelle tension. Probablement une nouvelle tension et pourquoi pas des nouvelles sanctions. Et il y a là, à mon avis, à craindre que cette tension n'ait des répercussions beaucoup plus graves.
Mais l'auditeur de Bukavu évoque un aspect, il parle de la complicité entre la communauté internationale et le pouvoir de Kinshasa. Il relève le fait que cette communauté internationale se limite à exiger la publication du calendrier électoral sans tenir compte de l'accord de la Saint-Sylvestre.
Bon, c'est une lecture à lui qu'il fait. Je crois qu'il a sa propre lecture. Je ne sais pas sur quelle base il a fait. Mais ce qui est vrai, c'est que quand vous regardez le comportement de la communauté internationale aujourd'hui, qui opère au travers des sanctions et tout ça, c'est une manière de remettre le train sur les rails. Et je suis persuadé que le discours qui a été prononcé, étant donné que ce discours n'a pas véritablement apporté un certain nombre de de précision et de réponse aux questions que se posent tant les acteurs au niveau national qu'au niveau international, eh bien, je doute fort qu'il ait opéré un rapprochement avec les acteurs de l'ingérence, évidemment, parce que le mot maître aujourd'hui, c'est celui de la souveraineté nationale.
Et après ce discours du chef de l'État et cette démarche de l'opposition pour une transition sans Kabila, comment vous entrevoyez la suite du processus politique en RDC?
Difficile pour moi de vous donner un schéma, mais je crois que en parlant d'une transition sans Kabila, l'opposition anticipe déjà une situation selon laquelle les élections ne sont pas organisées d'ici le 31 décembre. Qu'est-ce qui va se passer? Ils nous disent, oui, après les 31, nous irons. L'État congolais va continuer, mais sans Joseph Kabila. Alors, tout le problème, c'est, oui, quel est le schéma qui va être utilisé? C'est peut-être là que nous attendons nos amis de l'opposition pour qu'ils nous éclairent un peu sur comment les choses vont se passer pour en arriver là.
Monsieur l'ambassadeur Andréa Tundou, comment vous entrevoyez l'évolution du processus politique en RDC après ces discours sur l'État et la démarche du rassemblement qui consiste, n'est-ce pas, à plaider pour une transition sans Kabila?
Je pense que le peuple congolais doit être averti. Le peuple congolais doit se méfier des narrations juridico-politiques de représentants radicalisés de l'opposition, agrémentés par quelques arguties argumentatives pour cacher leur véritable, pour légitimer leur projet initial d'un état d'exception sans passer par la démocratie. Les faits électoraux sont les meilleurs avocats du président Kabila, et on va le voir. Déjà, l'enrôlement va se terminer. Il s'en suivra le processus législatif et enfin les élections. Voilà un chronogramme sommaire. Alors, M. Kabila, j'ai entendu quelqu'un dire que M. Kabila est allé chercher l'adoubement en France. Non, c'est une pratique internationale. Lorsqu'on accède au pouvoir, on visite les meilleurs partenaires de son pays. Ceci est vrai ici, chez nous, aux États-Unis, en France et ailleurs.
Et en conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Mais en conclusion, nous ne pouvons pas soutenir les auteurs de l'ingérence démocratique. Ce sont les partisans de la loi du plus fort, ceux qui veulent marginaliser l'exception africaine, ceux qui veulent marginaliser l'expérience des États nouveaux à participer à la modernisation de cette grande machine qu'est devenue l'ONU.
Honorable Délice Sanga, comment vous entrevoyez l'évolution du processus politique après ces discours du chef de l'État et la démarche que vous menez, n'est-ce pas, pour une transition sans le président Kabila?
Comme nous l'avons dit, Joseph Kabila et son camp, Andréa Tundou compris, sont les hommes du passé. On ne peut entrevoir cet avenir que sans eux.
On ne peut Par entrevoir... quel mécanisme le prof a posé la question?
On y viendra. Le peuple congolais est là. Et le vrai souverain, c'est le peuple congolais. Ce n'est pas eux qui pensent...
C'est le moment pour préparer
cette souveraineté. On les mobilise, on les sensibilise. On y viendra. Et quand j'entends parler de l'état d'exception que fustige justement André Alain, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Le Congo est dans un état d'urgence, dans un régime d'exception sans nom, sans liberté. On ne peut pas manifester. On est arrêté. Nous avons des prisonniers politiques. Ça s'appelle un état d'exception. Cet état d'exception, c'est celui qu'ils font vivre et font sévir au Congo et auquel nous voulons, nous, comme démocrates, mettre fin. Ce n'est pas à nous de nous faire, c'est à eux de nous faire des leçons sur la démocratie. Nous disons, ce pays a l'obligation d'aller vers les élections, que les Congolais, en toute souveraineté, se choisissent leurs dirigeants, et non pas qu'un individu, un groupe d'individus, s'impose à eux par la force, et c'est ce que proscrit, interdit l'article 64 de la Constitution, que nous mettrons en mouvement.
Professeur Félicien Kabamba, un mot en guise de conclusion.
Alors, la meilleure manière de mettre fin à l'ingérence démocratique, c'est d'asseoir les mécanismes démocratiques de l'alternance politique.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Étienne Sizakala qui était à la technique. Merci à Alain Irung sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Okapi.